Alors, donc, moi, je vais vous parler de quelque chose qui est pas exactement, enfin, c'est pas exactement comme c'est stipulé dans le programme, hein, parce que je vais pas vous parler tellement du XXe siècle, très peu, mais je vais vous parler de ces moliéromanes, moliérophiles, moliérolâtres, fanatiques, passionnés, idolâtres, tels qu'ils se présentent eux-mêmes, les moliéristes, en essayant de me demander comment se construit l'éthos social, du moliériste, et il me semble qu'il se passe quelque chose, enfin il me semble, c'est assez sûr, parce que quelque chose de très important à la fin du 19e siècle, au moment où la revue Le Moliériste paraît, dirigée par Georges Monval, elle paraît le 1er avril 1879, c'est un mensuel qui durera 10 ans. Voilà, donc ma communication va principalement tourner autour de cette revue, pas dans une perspective d'analyse des différentes rubriques, mais vraiment dans un questionnement sur le positionnement, la présentation de soi que fait le moliériste. Robert Manuel avait à peine 10 ans lorsqu'il est tombé amoureux fou de Molière. Sa passion depuis ne l'a jamais quitté. Bien au contraire, après avoir passé le plus clair de sa vie à jouer, à mettre en scène, à faire aimer celui qu'il considère, avec Shakespeare, comme le plus grand homme de théâtre de tous les temps, Robert Manuel demeure aujourd'hui plus moliériste que jamais. Tels sont les mots qui figurent sur la quatrième de couverture de cet ouvrage qui paraît en 1985 et... Alors Robert Manuel est, juste pour contextualiser un peu, il est sociétaire honoraire de la Comédie Française, professeur au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, et il se présente dans cette lettre ouverte à Molière, qui lui a adressée de bout en bout comme le champion des moliéristes. Alors on peut s'interroger sur le sens précis à donner à cette dernière phrase. Je vois pas très bien comment on peut demeurer aujourd'hui plus moliériste que jamais, mais en tout cas ce que nous dit cette rhétorique de la surenchère, c'est que il y a quelque chose qui se joue dans la déclaration passionnée de l'amour à Molière. Or, il se trouve que lorsque le terme de moliériste émerge véritablement dans l'espace public, donc à la toute fin du XIXe siècle, avec cette revue Le Moliériste, ceux qui le promeuvent, ceux qui se réclament moliéristes, sont des érudits. Il y a donc un paradoxe, une tension entre le discours érudit qui est tenu sur Molière et ce discours idolâtre dont Robert Manuel est un très bon exemple. Et c'est là-dessus que je vais essayer de m'interroger. Alors, pour revenir très rapidement sur le culte de Molière. Molière avant la revue Le Moliériste. Voilà ce que nous dit Caillavat de l'Estendou en 1781. Alors, Caillavat de l'Estendou écrit un discours, c'est assez rigolo, il écrit un discours fictif de réception posthume de Molière à l'Académie française. C'est évidemment fictif, et il imagine la réponse que fait Molière aux immortels. Et il met dans sa bouche ces mots « Les jolies femmes, les gens du bel air, quelques comédiens même, ont cru jeter du ridicule sur le petit nombre de mes partisans en les appelant bonnes gens possédés du moliéranisme ». Donc là, ce qui est intéressant, c'est ce terme de moliéraniste qui est... le double, en quelque sorte, du moliériste. Et je ne vais pas développer pour l'instant, mais enfin, j'attire votre attention sur cette expression, être possédé du moliéranisme. Là, ici, Caillavat de l'Estendou fait dire ça à Molière, donc on sent bien le caractère péjoratif de cette expression. Ce sont les gens du bel air, les jolies femmes, donc on peut penser l'aristocratie qui tiennent ce discours-là et qui pointent du doigt ces fous, ces idolâtres, qui sont donc vus comme des gens n'ayant pas finalement les codes aussi de la sprezzatura désinvoltura qui dicte selon les règles de convenance de ne pas focaliser, hein, c'est une règle mondaine, de ne pas focaliser son discours sur une seule personne, sur un seul sujet. Hein, ça, c'est le type du barbon, de l'ennuyeux, de celui qu'il faut donc surtout ne pas imiter. Ce culte à Molière, c'est loin d'être seulement un thème littéraire. Alors là, je vous dis, c'est une fiction, c'est un discours fictif. C'est les historiens du théâtre l'ont montré, hein, que dès son vivant, en fait, Molière est adulé, que dans la presse se fait l'écho de ce culte qui s'installe. Mais moi, ce qui va m'intéresser ici, plus particulièrement, c'est ce qui se passe au XIXe siècle. Il se trouve qu'en 1820, un certain Beffara, qui se présente, vous voyez ici, lui-même comme étant un ex-commissaire de police du quartier de la Chaussée-d'Antin, publie cette dissertation sur Jean-Baptiste Poquelin-Molière, où il explique, alors c'est une dissertation, hein, c'est très court, ça fait 28 pages en tout et pour tout, c'est extrêmement factuel, et il explique là-dedans ses recherches dans les archives paroissiales, notamment celle de Saint-Eustache, où il a mis au jour, où il a trouvé l'acte de naissance de Molière, et il établit que Molière n'est pas né sous les piliers des Halles, ce qui était la légende véhiculée jusque-là par Grimaret, par Voltaire. Donc il casse ce mythe-là. À partir de cette date-là, donc là, la publication, il fait ses recherches en 1820, mais la publication a lieu en 1821, il se passe quelque chose dans l'histoire du culte de Molière, c'est que on sait que Molière est né le 15 janvier. Cette date anniversaire, on en a déjà parlé, hein, on le sait. J'en ai retenu juste ici deux exemples, hein, de célébrations culturelles à Molière. Le 15 janvier 44, donc Jacqueline nous a expliqué l'inauguration de la fontaine Molière par suite à la souscription du sociétaire Régnier. C'est un académicien qui fait le discours pour inaugurer cette fontaine. Bon, et autre date, il y a d'autres exemples, mais ceux-là m'ont paru significatifs, le 15 janvier 54, où est lancé un banquet annuel en l'honneur de Molière par la Société des artistes dramatiques, banquet qui est présidé par le baron Taylor, qui a fondé la dite société en 1840. Qui était précédemment commissaire royal de la Comédie-Française. Et ceux qui constituent la plupart des membres de cette société sont eux-mêmes des comédiens français. Je vais très très vite là, mais c'est juste pour vous dire qu'on en est là, si vous voulez, jusqu'à la dernier tiers du XIXe siècle, à un culte qui est surtout événementiel. Le culte officiel de Molière est événementiel. Hein. Il se passe autour de commémorations, d'inaugurations, de banquets. Et il est pris en charge par deux institutions, surtout la Comédie française, et en mineur, l'Académie française, qui a un rapport extrêmement ambigu. Donc il y aurait une étude à faire, hein, sur le rapport de l'Académie française à Molière, un rapport de contrition, de regret, de remords. Il y a un discours je crois, 1957, qui est très drôle, d'un académicien qui dit à quel point les académiciens regrettent de ne pas avoir accueilli Molière dans leur rang. Bon. Je passe rapidement là-dessus. Donc, on en est là lorsque va s'ouvrir, en fait, à la fin du 19e siècle, c'est préparé dans les décennies qui précèdent, à un nouveau culte, une nouvelle manière de célébrer Molière, cette fois-ci, non pas seulement par des événements type banquet, commémoration, etc., mais par les archives. Et c'est le même événement premier qui déclenche, en fait, cette autre vague de culte, si on peut dire, cette autre modalité de culte. C'est cette même dissertation de Beffara, hein, dont je vous ai dit que c'était véritablement un travail d'érudit, de quelqu'un qui a travaillé de manière très fastidieuse, très laborieuse dans les archives, qui a épluché beaucoup, beaucoup, beaucoup d'archives, qui va donc donner naissance à ce Molière des archives qui va donc peu à peu apparaître à partir donc de 1820 grâce à un certain nombre d'études qui sont publiées sur Molière. Alors pourquoi ? Parce que précisément les archives, et en particulier les archives de province, constituent un enjeu national majeur depuis la Révolution, puisqu'il s'agit d'en transférer, en fait, la propriété à la nation, qui est dépositaire de la mémoire collective. Et les politiques culturelles, patrimoniales, qui sont mises en place par chaque régime successif à partir de la Révolution, vont s'attacher à les centraliser, ces archives, et à les administrer grâce à une administration qui est de plus en plus puissante. une date qui est importante à ce titre-là, c'est 1834, lorsque Guizot, qui est alors au ministère de l'Instruction publique, se voit confier par Louis-Philippe l'établissement d'un comité spécial qui s'appelle le comité chargé de rechercher et de publier des documents inédits. Donc on est en 1834 et ce comité a pour tâche de recenser comme ça les archives de la France entière et de pouvoir les centraliser dans un organe qui peut donc avoir une vue d'ensemble sur l'état des archives françaises et particulièrement provinciales. Donc sous la houlette d'un certain nombre de personnages, notamment Arcisse de Caumont, va se développer une sorte de patriotisme local dans cette recherche comme ça d'archives, et ça va s'accompagner d'un fleurissement des sociétés savantes ou littéraires en province. Et il se trouve, Jacqueline aussi là nous l'a rappelé, hein, que la matière moliéresque est particulièrement propice en fait au développement de ces politiques patrimoniales qui valorisent les archives de province grâce à la tournée de Molière en province. D'où ces travaux là qui s'affichent derrière vous. Hein, c'est quelques exemples, il y en a d'autres. J'ai mis en bleu le travail d'Eudore Soulier qui est un peu différent des autres et qui est particulièrement intéressant parce que lui, il est directement chargé par Victor Duruy d'aller enquêter en province sur l'état des archives moliéresques et il établit donc ce rapport où il explique en fait son périple à travers les différentes villes qui sont notées ici et c'est assez drôle parce qu'en fait il y a un constat d'échec total, c'est-à-dire il dit bah en fait il y a rien, c'est très pauvre, on va rien trouver, mais en tout cas bon le mouvement est lancé et les érudits locaux vont complètement relayer ce mouvement-là. En plus de cette valorisation du statut de l'archive et de l'archive provinciale, se développe une valorisation de la fonction d'archiviste. Il se développe peu à peu au sein des instances étatiques une perception plus institutionnelle qu'administrative des systèmes d'archives et l'archiviste acquiert peu à peu une véritable fonction scientifique. Il trie, il expertise, il décrit et il évalue l'authenticité des documents, donc il est le garant finalement de leur valeur intrinsèque. Alors il y a plein d'éléments historiques qui permettent de montrer ça, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails. On peut citer l'école des chartes, qui est fondée en 1821, et qui a vocation à former de nouvelles générations d'érudits. Et il faut aussi souligner le développement très puissant de l'administration qui est accompli par dans la France libérale de Louis-Philippe, justement pour former des élites dans le champ de l'administration du patrimoine. Donc ça, vous voyez, ce développement de politique, en fait, pour développer la recherche en archives et la valorisation du statut d'archiviste, conduit, enfin, promeut véritablement cette érudition. Et cette érudition, elle est soutenue aussi par des historiens qui la pensent comme un pilier essentiel finalement de l'historiographie. Alors Ernest Renan, il y a Guizot, il y a Ernest Renan, il y en a d'autres, hein, par exemple, dit que les travaux les plus utiles sont ceux qui mettent au jour de nouvelles sources originales, car la philosophie de l'histoire n'arrivera à se constituer de manière sérieuse et digne que par le secours de la plus scrupuleuse érudition. Lorsque donc le moliériste paraît en 1879 pour la première fois, vous voyez que donc ce qu'on voit sur cette page de titre, c'est tout de suite donc la direction Georges Monval et puis les nombreux collaborateurs qui participent à cette revue. Alors qui sont-ils ces moliéristes? Là, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Là, je vous en ai mis quelques-uns. Ce qu'on voit en fait assez vite, c'est que ils appartiennent à deux mondes, à la fois distincts et complémentaires. C'est que d'une part, ce sont tous des érudits dans la mesure où ils travaillent sur les textes et ils ont tous, au moment où ils participent aux moliéristes, fait déjà leurs preuves. Ils ont déjà publié sur Molière. Évidemment, la revue Le Moliériste est une sorte de tremplin pour approfondir ses recherches, donc ils publient encore plus après, mais ils ont déjà publié sur Molière, et ils sont par ailleurs, ils ont une sorte de double casquette, ce sont aussi des administrateurs d'instances culturelles. Jules Clarity, par exemple, administrateur alors général de la Comédie Française, Édouard Thierry, qui est de formation bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Arsenal, ancien administrateur général de la Comédie Française, Édouard Fournier, bibliothécaire du ministère de l'Intérieur, Paul Lacroix, connu sous le nom du bibliophile Jacob, conservateur de la Bibliothèque de l'Arsenal, Vitu, alors lui un peu différent, il est journaliste et président de la Société des gens de lettres, mais il a pas véritablement de poste institutionnel, mais c'est un peu une exception. Gustave Laroumet, agrégé de grammaire au collège Stanislas, qui deviendra quelques années plus tard chef du cabinet du ministre de l'Instruction publique. Donc, quel que soit leur en fait, ces gens, ces moliéristes là qui tournent autour de Montval, sont soit exercent déjà des fonctions capitales dans l'administration culturelle et patrimoniale de la France, soit sont appelés à occuper ces postes importants. Et donc cette double casquette fait qu'ils appartiennent à deux mondes qui sont à la fois distincts et complémentaires. Mais donc ces moliéristes ne sont pas de purs savants, ce ne sont pas non plus de purs administrateurs. C'est un cercle fermé, parisien et mondain, qui constitue le réseau des élites culturelles de la République. Parce que ces dignes moliéristes ont une vie mondaine assez active, et on trouve trace dans le moliériste, mais pas seulement, et c'est ça qui va m'intéresser particulièrement, pas seulement dans le moliériste, aussi dans d'autres journaux, des traces de leur vie mondaine. Et ce fameux 15 janvier, donc, qui est célébré de manière officielle, voilà, par tout un tas d'événements, est célébré aussi à leur échelle dans des lieux privés, en particulier l'élégant restaurant du Palais Royal chez Dwix, ex-café Corazza, et aussi lorsque, par un hasard de circonstances, ils ne peuvent pas se rendre chez Dwix un certain 15 janvier, ils vont rejoindre une autre société parisienne, de société savante parisienne, la Société des Parisiens de Paris, en 1881, et ils vont dîner dans le très chic restaurant Brébant. Donc, il y a une sorte comme ça d'appartenance, si vous voulez, mondaine de ces moliéristes qui fréquentent les mêmes réseaux que la haute société parisienne, et que, par exemple, ce restaurant Brébant est fréquenté aussi régulièrement par le congrès des délégués des sociétés savantes, qui est un peu le chapeau, le chef, enfin la société chef de toutes les sociétés savantes, la société de la bienfaisance israélite, mais aussi l'administration du canal de Suez. Ces moliéristes donc constituent un véritable réseau. Ils se connaissent très bien entre eux pour des raisons professionnelles, mais aussi pour des raisons personnelles, puisque François Copé, dont je vais vous parler dans un instant, qui est aussi un éminent moliériste, qui appartient et qui est très actif au sein de la revue, est le beau-frère de Montval. Donc il y a des liens très serrés, ce qui fait de ce petit groupe en fait un cercle très fermé, parisien, mondain, à la fois érudit, appartenant à la haute administration culturelle. Et c'est vraiment le produit, en fait, de l'élite à ce moment-là républicaine, qui est là au cœur de cette revue. La notabilité de ces moliéristes, toutefois, il y a un certain paradoxe. Pourquoi ? Parce que ce sont donc des érudits. Vous comprenez que ce ne sont pas que des érudits. Mais la revue qu'ils produisent, et le titre le dit bien, s'appelle Le Moliériste, et donc annonce clairement le programme. C'est une revue savante. C'est une revue qui est consacrée exclusivement à Molière. C'est donc une revue a priori pour spécialistes. Là, je vous ai mis la toute première page du premier numéro du Moliériste, qui est surtout, enfin, ce sont surtout ces pages-là qui vont m'intéresser, parce que c'est là, en fait, à mon avis, que se cristallise la construction de cet ethos de Moliériste. Je lis donc à partir du deuxième paragraphe. C'est l'organe de cette Non, pardon, excusez-moi, dans le premier paragraphe. On nous pardonnera de dire que nous sommes en France et de par le monde tout au plus 300 dévots de Molière, dont l'admiration va jusqu'au culte et pour lesquels la découverte d'une signature, l'indice seul d'un autographe du maître, prend les proportions d'un événement public. C'est l'organe de cette petite église littéraire que nous voulons fonder, quelque chose comme les annales de propagation de la foi dans notre religion spéciale. Après les patientes investigations des Beffara, des Tachereau, des Eudorsoulier, des Jalles, après les travaux considérables de messieurs Paul Lacroix, etc., etc., il semble qu'il n'y ait plus rien à trouver, qu'il ne reste plus rien à dire sur Molière, etc. Et je passe à la page suivante. À côté des noms cités plus haut, grands prêtres et adorateurs du Dieu, que de chercheurs obscurs, moliérisants, moliérophiles, moliéromanes même, c'est toute une armée qui n'avait pas son moniteur officiel, dont les travaux restent ou incomplets faute de matériaux suffisants, ou ignorés faute d'une occasion favorable. Donc on voit ici que se constitue un groupe très hiérarchisé, hein, par Montval. Il y a Montval, il y a ensuite en dessous les grands prêtres du moliérisme, qui sont les collaborateurs dont je viens de vous parler, et ensuite les chercheurs obscurs. Donc la province est présente, hein, mais sous l'appellation des chercheurs obscurs, qui sont là pour finalement faire les petites mains et produire des travaux qui ensuite vont être relayés par cet organe officiel qui est, nous dit Montval, comme le moniteur officiel. Donc là, Montval fait allusion au moniteur universel, qui est le journal qui retranscrit officiellement les débats de l'Assemblée nationale à cette époque-là. Donc c'est vraiment cet organe officiel, il y a quand même quelque chose de paradoxal, hein. C'est d'une part ce discours extrêmement idolâtre, c'est-à-dire que quand on lit ces pages, on a du mal à se dire qu'on a affaire à une revue savante. On a du mal à se dire qu'on a affaire au bulletin d'une revue savante avec des gens très sérieux, très bien formés, produits de l'élite républicaine, de l'élite culturelle. D'autre part, l'autre élément un petit peu dissonant, c'est que derrière ce culte affiché pour Molière, il y a un autre culte en mineur qui se met en place et qui est porté par le discours déjà qui est tenu sur les moliéromanes, moliérophiles, moliérolâtres, et relayé aussi par le titre, le moliériste, et par ce sonnet donc, qui suit immédiatement les deux pages que je viens de vous montrer, qui est écrit par François Copé, qui commence par un hommage à Molière. Au moliériste, Sodet, vous savez ce que fut cet homme de génie. Un jour, il sort du peuple, il s'instruit par hasard. Mais pour avoir foulé la Seine et mis du phare, son père le maudit et son sang le renie. Mais qui se clôt sur un autre hommage. Donc, je lis pas les deux, je lis que le dernier tercé. Et vous, dévot du Dieu, si vous trouviez demain deux lignes seulement écrites de sa main, vous seriez honoré par quiconque sait lire. Ce quiconque sait lire fait écho à ce que disait Montval tout à l'heure, où il dit, j'arrive pas à revenir en arrière, mais où il disait que voilà, quiconque sait lire est susceptible doit adorer Molière. Donc là, il y a un glissement en fait qui s'opère dans le discours des moliéristes de l'adoration de Molière à l'adoration des moliéristes même, le culte qui est rendu par les moliéristes aux moliéristes. Selon cette hiérarchie que je viens de vous rappeler tout à l'heure, hein, il y a les moliéristes. En fait, finalement, le niveau zéro du moliériste, c'est le moliériste qui va lire la revue et qui cherche rien, qui juste lit et qui aime Molière. Ça, c'est le niveau zéro. Niveau 1, c'est les chercheurs obscurs. Niveau 2 du moliériste, c'est les grands prêtres. Et niveau 3, super niveau, c'est Montval. Et donc, ce glissement-là, ce glissement d'un discours d'adoration du culte de Molière vers le culte du moliériste, est, à mon avis, un moyen pour Montval de donner une visibilité au moliériste sur la place publique qui n'a pas d'équivalent et qui est absolument nouvelle. Ce qui me fait dire ça, c'est le ton franchement humoristique de ces deux pages, hein, dont je viens de vous lire un extrait. On a du mal à prendre ça complètement au sérieux et on se demande pourquoi Montval a comme ça besoin de souligner cette folie, cette adoration complètement démesurée pour Molière. Pourquoi est-ce qu'un érudit a besoin de prendre cette posture-là, en fait, pour faire passer son discours? Alors, juste rappeler hein, que vraiment, c'est une revue, je vous en montrerai pas d'autres extraits, j'en lirai pas d'autres extraits, c'est une revue extrêmement sérieuse, voire parfois peut-être un tout petit peu ennuyeuse, dans le l'accumulation en fait, enfin en tout cas si on lit ça de manière cursive, c'est un peu difficile parce qu'il y a une accumulation de détails, de débats érudits très pointus avec un ton extrêmement sérieux. C'est-à-dire que l'humour que vous voyez là, on le retrouve absolument pas dans la revue. Et ce sont des gens, il faut savoir que quand le Moliériste est publié, il n'existe pas encore de revue dédiée à un auteur. La revue Bossuet, la revue Bourdaloue, la revue des études rablaisiennes, c'est des revues qui apparaîtront au début du XXe siècle. Donc quelque chose de très novateur. Et Monval, lorsqu'il crée cette revue, va prendre vraiment comme modèle la société Shakespeare qui existe depuis 1840, hein, donc un certain temps à Londres, et qui est une société érudite, vraiment érudite, et qui essaye d'établir en fait les vraies versions, les versions authentiques des pièces de Shakespeare. Donc ces moliéristes ont quelque chose d'extrêmement sérieux dans leur recherche, hein, ce sont ils ont une approche de collectionneur en fait, quelque part. Pourquoi de collectionneurs ? Parce que toutes leurs revues visent à établir la généalogie de Molière, visent à pouvoir retracer donc des éléments de sa vie, visent à pouvoir identifier où se trouvent des éléments de son corps, ses os, sa molaire. Bon, il y a une sorte de folie comme ça, de frénésie. Mais précisément, cet humour-là, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Eh bien, pour ça, il faut faire un tout petit détour pour comprendre ça par l'histoire de la folie. Alors, je ne vais évidemment pas vous faire une histoire de la folie, mais je voudrais juste souligner, attirer votre attention sur le fait que se construit peu à peu, en particulier au XIXe siècle, se développe, disons, pas se construit, mais se développe, un discours sur la folie amoureuse qui est perçu comme une manie. Il y a le livre de Thomas Arnold, alors lui qui date de la fin du XIXe siècle en Angleterre, qui identifie la folie pathétique comme étant la catégorie, si vous voulez, qui inclut la folie amoureuse. Mais on a surtout en France Pinel, qui au tout début du XIXe siècle parle de la manie par amour, avec une fixation en fait sur l'objet aimé, et surtout. En 1838, Esquirol, qui écrit donc sa somme des maladies mentales, qui là opère une révolution dans la médecine aliéniste parce qu'il crée le concept de monomanie, hein, ce qui est un nouveau concept médical. Cette monomanie, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, bien c'est précisément qu'elle est, je cite Esquirol, un délire exclusif, fixe et permanent qui se caractérise par une passion excitante ou gaie. Donc elle n'est pas de la mélancolie, c'est une passion excitante ou gaie qui en plus est une maladie, selon Esquirol, de la civilisation. Je le cite encore, plus l'intelligence est développée, plus le cerveau est mis en activité, plus la monomanie est à craindre. Or, le monomane est précisément, dans les symptômes que relève Esquirol, un collectionneur. Il a une tendance ponctuelle ou permanente à accumuler des objets appartenant à une même catégorie. Et dans les exemples qu'il cite, il se trouve que ce sont des collectionneurs de pierres de tout type, hein, c'est monomane, qui... Alors, c'est un symptôme parmi d'autres, mais cette collectionnite, hein, si je puis m'exprimer ainsi, est vraiment un symptôme de la monomanie. Or, c'est pas du tout un hasard si au XIXe siècle se développe dans la littérature, en particulier dans les romans, on pense à Flaubert, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, le personnage, en fait, du collectionneur, le personnage du collectionneur compulsif qui est toujours tiré du côté de l'exubérance. Et ça, c'est extrêmement lié à cette histoire de la monomanie et du lien qui est établi entre maladie mentale, mais maladie mentale, vous comprenez, avec Esquirol, plutôt joyeuse, hein, et collection. Or, moi, ce que je pense, c'est que précisément, la posture de Monval réside dans le fait qu'il utilise cet imaginaire collectif du collectionneur qui est en plein développement au XIXe siècle pour lui-même se faire une place en tant qu'érudit dans l'espace public. Parce que n'oublions pas que c'est une revue érudite et Monval a beau en fait déclarer dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure qu'il s'adresse à 300 dévots de Molière, hein, c'est dans le premier paragraphe, de par le monde nous sommes tout au plus 300 dévots de Molière, moi je pense qu'il s'adresse en fait à un public, en tout cas qu'il vise un public beaucoup plus large, et ça s'expliquerait tout à fait par le fait que c'est quand même un représentant de l'institution, avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et qu'on est à ce moment-là en pleine Troisième République, que Molière, après la défaite de Sedan, est une sorte de fétiche autour duquel va se centrer autour duquel doit s'unifier le peuple français dans une sorte de figure comme ça, qui serait une figure laïque, patriotique, voilà, et qui va utiliser cette, il va s'appuyer sur cette vogue du personnage du collectionneur, elle-même diffusée, renforcée par les travaux d'Esquirol notamment sur la monomanie, pour trouver donc cette place dans l'espace public. Et regardez la manière dont parle Jean Monval, qui est le fils de Georges Monval, qui lui rend hommage le 13 janvier 1923 dans la revue hebdomadaire. Il publie un article en hommage à son père, un moliériste Georges Monval. Alors déjà, j'attire votre attention sur le fait que il y a vraiment une identité moliériste. Georges Monval, mon père, est un moliériste, l'étiquette moliériste. Et regardez comment il explique ce terme de moliériste. Le terme moliériste désigne tout homme qui non seulement... Pardon, c'est pas le terme, c'est un moliériste, je pense que là, il y a un petit... Bon, désigne tout homme qui non seulement aime Molière, mais qui le préfère. Et préfère est en italique et en fait l'objet d'un véritable culte. Donc cette idée de préférence, cette exclusivité, c'est précisément un caractère clinique de la monomanie, de la folie par amour. Et cette stratégie de Monval, qui est peut-être que partiellement une stratégie, peut-être une stratégie inconsciente, mais qui est vraiment la, néanmoins qui aboutit à la construction d'un ethos moliériste, est extrêmement efficace parce que la presse, et alors ça j'ai découvert ça, va s'emparer en fait de cette figure de moliériste, alors souvent dans une visée satirique. Alors j'ai beaucoup d'exemples, mais je vous en mets juste deux ici. Par exemple, Émile Bergerat dit Caliban dans le Figaro. Alors lui attaque régulièrement les moliéristes. Il y a un combat, il y a une grosse rivalité entre le Figaro et le moliériste, la revue Le Moliériste, parce que il y a des critiques. Il y a Auguste Vitu qui est par ailleurs un collaborateur du moliériste, qui est aussi critique au Figaro. Et à un moment, il se dispute parce que Vitu a publié une information avant le moliériste. Enfin, il y a un conflit comme ça entre les journaux. Et Émile Bergerat, qui n'aime pas beaucoup les moliéristes, dit « Le moliériste croit, il adore, il est illuminé ». Là, j'attire aussi votre attention sur le singulier, en fait. Hein. Le moliériste. Le moliériste est un type. Étrange maladie, tout de même, dont Monval est le plus célèbre malade. Ceux qui en sont atteints ne peuvent prononcer le nom de Molière sans rouler des yeux morts, se pâmer et tourner les pouces en dedans. Donc il y a aussi une sorte de comportement moliériste en société. Enfin, en tout cas, c'est ce que semble nous suggérer Bergerat. Et de fait, dans la presse, Monval est particulièrement épinglé pour être un moliériste d'un type particulier, le type de celui qui ressemble à Molière. Et alors là, je vous ai mis deux portraits en regard de Molière par Mignard et Monval. Et il y a tout un discours de presse qui se développe sur leur ressemblance physique. Alors, soit dans un sens extrêmement critique, soit pour dire, regardez, ce Monval, c'est l'émanation de Molière lui-même, etc. Et son propre fils, Jean Monval, dans un autre passage de l'article dont je vous ai parlé, là tout à l'heure, mon père, enfin, Georges Monval, un moliériste, dit littéralement, voilà, en fait, il ressemble, mon père ressemblait à Molière, il avait les mêmes lèvres charnues. Donc il y a tout un imaginaire comme ça du moliériste, et en particulier du moliériste Monval, qui est comme une sorte d'avatar de Molière lui-même. Et donc cette presse satirique va se déchaîner sur le moliériste, comme ici le Gil Blas, qui dit, qui fait une sorte de typologie des moliéristes. Le moliériste se divise en plusieurs sous-genres. Nous avons celui qui, s'emparant de ce mot sans gêne, « je prends mon bien où je le trouve », recherche de 8h du matin à 7h du soir à qui Molière a bien pu faire ses emprunts dont il a proclamé la légitimité. Deux moliéristes ont failli s'entr'égorger à propos de la fameuse scène des fourberies de Scapin. Qu'allait-il faire dans cette galère ? Nous avons aussi le moliériste qui, sans pousser l'imitation jusqu'à porter des hautes choses et des manches de dentelle, relève ses moustaches et frise sur le haut de la tête ses cheveux qu'il laisse tomber sur ses épaules de façon à ressembler de son mieux à l'auteur du Misanthrope. Monsieur Monval est de ces moliéristes-là. On retrouve ce discours de Monval, image de Molière lui-même. À ces divers cas de moliérisme intensif, rabique et sous-cutané, s'ajoute celui du moliériste collectionneur. Lui n'a jamais lu Molière et serait hors d'état d'en citer un vers. Il se contente de rechercher pour les placer dans une vitrine des objets ayant appartenu à ce puissant poète dramatique. Il a le cordon d'un des souliers qu'il portait en scène lorsqu'il y est mort de la rupture d'un anévrisme. En un mot, il fait pour Molière ce que le prince de Galles fait pour le jockey archer. Cet éthos mondain en fait du moliériste est vraiment souligné ici par le parallèle avec le prince de Galles. Mais le vrai, le pur moliériste est celui qui, au banquet annuel créé pour célébrer l'anniversaire de la naissance du grand homme, se lève et, après avoir porté un toast à son immortalité, se déchaîne en apostrophes virulentes contre la Béjart. C'est ainsi qu'à force de commenter ses malheurs conjugaux, ses fanatiques ont fini par faire de Molière quelque chose comme le syndic des cocus. Et en effet... donc là, l'allusion qui est faite dans le dernier paragraphe, ces apostrophes virulentes contre la Béjart, c'est quelque chose qui est extrêmement relayé par les moliéristes, mais surtout par la presse satirique. C'est une sorte de caisse de résonance colossale, en fait, à ce petit groupe d'érudits que sont les moliéristes, la presse généraliste, la presse satirique, mais aussi la presse généraliste avec Le Figaro. Pour faire un portrait type du moliériste qui est celui qui prend pour, et ça aussi c'est très paradoxal par rapport à sa posture d'érudit de moliériste, c'est qui s'intéresse à Molière comme en tant qu'homme, en tant que sujet lui-même vivant, ayant souffert surtout. Par exemple, Édouard Thierry, dans le roman de Molière, alors éminent moliériste, Édouard Thierry, érudit s'il en est, « Ce n'est pas l'auteur de comédie dont on a tant parlé sans tout dire que nous allons étudier en Molière, c'est l'homme même, en le cherchant surtout dans la passion qui le posséda le plus, et tout entier, l'amour. S'il entra dans la voie où l'attendaient tant d'épreuves et tant de gloire, c'est que l'amour l'y entraîna, l'amour, avec ses dépits, ses désespoirs et ses douleurs, l'inspirait. » Donc ce travail d'érudition qui est mené par les moliéristes est absolument consubstantiel avec la consubstantiel d'un discours en fait sur l'état malheureux de Molière en amour, et donc une sensibilité particulière, donc tout un discours romantique en fait qui est tenu sur Molière, une vision romantique qui est tenue sur Molière et qui là aussi entre qui est aussi assez paradoxal en fait par rapport aux moliéristes. Et ce discours amoureux est comme, si vous voulez, il y a des effets de miroir ou d'écho entre précisément le Molière amoureux que postulent ces moliéristes et la posture qu'ils prennent eux-mêmes d'amoureux de Molière. Alors amoureux, pas exactement dans le même sens, mais ce discours amoureux. Monval va s'appuyer dessus, donc comme j'ai essayé de vous le dire, pour donner en fait pour se donner une place dans l'espace public à lui, à son groupe de moliéristes, pour aussi faire entendre, diffuser, vulgariser ce terme de moliériste, mais aussi pour se créer une propre identité d'homme soi-même sensible et est susceptible de ressentir la mort. Je m'explique, c'est qu'il se trouve que Monval donc, est archiviste, pardon, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, il est archiviste de la Comédie française. Mais avant d'être archiviste de la Comédie française, il se trouve qu'il a été comédien, il a été formé au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, et il a eu comme professeur Régnier, le même Régnier hein, qui avait engagé la souscription nationale pour La Fontaine. Donc, encore une fois, c'est un petit monde. Mais il n'est pas devenu comédien. Il a été archiviste. Alors, on ne sait pas exactement ce qui a fait qu'il n'a pas été comédien. Mais en tout cas, ce qui est tout à fait net, c'est cette volonté de faire de soi un personnage, de se donner en quelque sorte une identité comme ça de personnage et de passer par ça, pour se faire, par un discours intime qui va véritablement permettre... discours intime, et même s'il faut passer par la posture du monomaniaque, hein, qui peut sembler péjorative, mais qui en fait est un appui pour se valoriser dans l'espace public, permet de donner véritablement une identité à ce Monval et aux autres moliéristes. Et je voudrais juste finir là sur Robert Manuel, donc, avec lequel j'avais commencé cette petite présentation. Robert Manuel, alors là, c'est très, très croustillant, ce livre. Là, il n'y en a que quelques extraits. Mais ce que je voudrais dire pour finir, c'est que ce que fait ici Robert Manuel, donc dans cette lettre ouverte amoureuse, c'est qu'il reprend d'abord un certain nombre de clichés et il s'appuie sur cet ethos du moliériste qui a été... ouverte, créée par Monval, par les moliéristes à la fin du XIXe siècle. En quoi ? Eh bien, parce qu'il tient ce même discours amoureux et parce qu'il revendique en fait cette adoration, cette préférence à Molière parmi tous les autres, mais aussi parce que il s'appuie sur son statut institutionnel. Et ça me paraît être une des caractéristiques très importantes du moliériste, c'est que l'éthos de moliériste est très lié au positionnement institutionnel, et notamment là à la Comédie française, et plus largement un positionnement idéologique, alors très, très conservateur dans le cas de Manuel. Hein. Oui, c'est la deuxième citation, regardez ce que Manuel dit. « Je vous lis quotidiennement », donc il parle à Molière. Hein. « Et si j'ai vécu dans votre maison, vous habitez désormais dans la mienne. Votre image, votre présence a de multiples exemplaires. » entoure ma famille, mes amis, et nous nous en trouvons fort bien. Il faut quand même dire que Manuel a envoyé sa fille au lycée Molière, qui était à l'autre bout de Paris, juste parce que c'était le lycée Molière. Hein. Il le dit lui-même. En effet, ma modeste demeure est devenue avec les années une sorte de petit musée Molière. Durant ma vie professionnelle, j'ai collectionné avec acharnement tout ce qui se rapporte à vous. Et de fait, Manuel est le type même du collectionneur. Mais ce qui est intéressant, c'est que précisément, il se distingue de ces érudits, de ces moliéristes de la fin du XIXe siècle en prenant de manière très très nette le contre-pied par rapport à la recherche érudite. C'est la première citation. Lorsqu'il dit « Savez-vous qu'on n'a jamais, jamais retrouvé la moindre ligne de vous, pas le moindre manuscrit, pas la moindre lettre, rien. Face à ce mystère, de nombreux moliérâtres, et là il y a encore une nouvelle dérivation adjectivale autour de Molière, hein, c'est pas une faute de frappe, les moliérâtres ont apporté des explications toutes plus délirantes et plus sottes les unes que les autres. » Et après il parle des différents moliéristes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bref, pour conclure... des comédiens aux archivistes, on voit le lien très fort entre l'institution de la Comédie française et le statut, l'éthos de moliériste, mais que précisément et paradoxalement, cette posture sociale de moliériste, elle passe par la revendication d'un discours intime, d'une présentation de soi comme étant amoureux, aussi comme étant fragilisé par une sorte de folie, comme pour utiliser en fait pour se créer un personnage de moliériste, hein, pour s'appuyer sur une sorte de nouveau type théâtral, et ça laisse pas que d'être paradoxal quand on sait le discours que Molière a tenu, enfin en tout cas on ne sait pas si c'est lui qui le pense exactement, mais si on pense au Tartuffe et à Don Juan, quand on voit l'image qui en ressort de l'idolâtrie, c'est quand même un peu surprenant. Voilà, merci beaucoup pour votre patience.